Le commandant Warren s'avança lentement au bord de sa chaise. Elle se plia en deux et laissa son bras gauche pendre à la verticale, comme une trompe d'éléphant, aurait dit le kiné. Même ce simple mouvement lui tira aussitôt un hoquet de douleur. Elle inspira, expira, et des gouttes de sueur perlaient déjà sur sa lèvre supérieure. « Comment vous sentez-vous ? » lui demandai-je. « C'est comme ça que vous prenez votre pied ? » rétorqua-t-elle. « Vous ne ressentez pas de douleur, alors vous jouissez de celle des autres. » « Commandant, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre niveau de douleur ?»« 14. » « Dites des gros mots. »« Pardon ?»« Vous m'avez bien entendu. Jusqu'à présent, votre principale stratégie défensive a été de vous en prendre à votre entourage. Alors continuez. Engueulez-moi. Traitez-moi de salope, de perverse, de bêcheuse. » Moi qui n'ai jamais ressenti ne serait-ce que la coupure d'une feuille de papier, tandis que vous, vous êtes là, submergé par un raz-de-marée de douleur. Lâchez-vous, Didi. Tempêtez autant que vous voudrez. Vous ne pouvez rien dire que je n'ai déjà entendu. Elle m'obéit. Elle cria, jura, fulmina, vitupéra. Je la laissai faire pendant quelques minutes, et sa rage alla crescendo lorsqu'elle commença à balancer son bras gauche en petits mouvements circulaires, comme un pendule dans le vide. D'autres gouttes de sueur se formèrent sur son front. Entre deux imprécations, elle haletait bruyamment lorsque son os fracturé manifestait lui aussi son mécontentement. « Arrêtez, » lui dis-je. « Quoi ?» Elle ne leva même pas la tête vers moi. Son regard était fixé sur un point de la moquette, les yeux presque vitreux sous le coup du stress et de l'effort. « Sur une échelle de 1 à 10, combien ?» Vous rigolez? Vous venez de m'obliger à faire des mouvements pendulaires. Je suis à 15, putain. Ou 18, ou 20. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Ça vous a fait du bien de jurer? C'est quoi ce délire? Elle leva les yeux, blanches comme un linge, déroutée. Je continuai, sans m'émouvoir. Pendant les 2 minutes qui viennent de s'écouler, vous avez extériorisé votre douleur et déchargé votre colère. Est-ce que vous êtes soulagée? Est-ce que cette stratégie a été efficace? Bien sûr que non! J'ai fait mes exercices et nous savons toutes les deux que c'est de la torture. Évidemment que ça n'a pas... Stop! Elle resta bouche grande ouverte, puis la referma en me regardant d'un air furibard. Je voudrais que vous fassiez travailler votre bras dans l'autre direction maintenant. C'est bien l'exercice suivant, non? Changez de sens, s'il vous plaît, et cette fois-ci, au lieu de crier, je veux que vous respiriez avec moi. Nous allons inspirer en comptant jusqu'à 7. Garder l'air dans nos poumons jusqu'à 3. Et ensuite expirer. Commencez, je vous prie. Elle jura. Je levai la main pour l'interrompre. Commandant, c'est vous qui êtes venu me voir, vous vous souvenez? Et il nous reste 40 minutes de rendez-vous. Elle me regardait toujours d'un air rebelle. De la sueur dégoulinait de la racine de ses cheveux. Mais elle commença à inspirer sur mon ordre. « Maintenant, » dis-je avec autorité, « je vous demande de répéter après moi. Merci, Melvin. » « Connard de Melvin !»« Merci, Melvin, » continuai-je. « Je sais que c'est douloureux. Je sais que tu remplis ta mission en me disant à quel point c'est douloureux. Je t'entends, Melvin, et je te suis reconnaissante d'essayer de m'aider à protéger mon épaule. » Didi marmonna quelque chose entre ses dents, et certains des mots qu'elle prononça n'étaient clairement pas des compliments. Puis elle dit à contre-cœur. « Bon, Melvin, merci de me dire à quel point c'est l'angoisse, mais les médecins ont dit que je dois faire cet exercice, que ça va m'aider à conserver ma mobilité. Alors, même si on est bien d'accord que c'est l'enfer absolu, je t'en prie, aide-moi. On est ensemble sur ce coup-là, ok ? Et il faut que je m'en sorte, Melvin. Il faut que je retrouve mon bras. Et toi aussi, ça marche ? » Je demandai à Didi de compter jusqu'à 30. Puis je lui demandai de changer de sens de rotation, une deuxième fois, et de compter de nouveau jusqu'à 30. Nous fîmes plusieurs cycles de cet exercice. Je parlais d'une voix égale, en lui donnant des instructions pour respirer, en lui suggérant des mots d'éloge. Elle répétait, d'une voix plus hachée, jusqu'à ce que finalement, « Merci, Melvin, » conclus-je pour elle. « Merci de ton aide. Merci de prendre soin de mon corps. Maintenant, on a fini et on peut tous les deux se reposer. Beau boulot. Je me tue. Au bout d'une seconde, Didi se redressa sur sa chaise. Elle semblait désarçonnée. Plus de pendulaire ? Plus de pendulaire. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, combien ? Elle me regarda, cligna plusieurs fois des yeux. J'ai mal. Je ne répondis rien. On ne peut pas dire que ce soit parti d'un coup de baguette magique. Ça me lance dans l'épaule, tout mon bras gauche est douloureux. Je crois que je ne pourrais même pas plier les doigts de la main gauche, tellement tout est enflé et enflammé. Je ne répondis rien. 8, admit-elle finalement. Je dirais 8. C'est comme ça que vous vous sentez d'habitude, après vos exercices ? Non, à l'heure qu'il est, je devrais être roulée en boule par terre, en position fœtale. Elle fronça les sourcils, se toucha le front de la main droite. « Je ne comprends pas, » dit-elle simplement. J'expliquai. « Vous extériorisez votre douleur. Vous la transformez en colère. J'imagine que c'est pour vous une émotion beaucoup plus confortable. Ensuite, vous attaquez. À ce moment-là, votre pouce accélère, votre respiration se raccourcit, votre pression sanguine grimpe en flèche et, par une ironie du sort, ça exacerbe votre douleur. Au contraire, j'essaye de vous tourner vers l'intérieur de vous-même, de faire en sorte que vous vous concentriez pour respirer régulièrement, ralentir le rythme cardiaque et diminuer votre pression sanguine. Cela calme vos nerfs et augmente votre résistance à la douleur. D'où les techniques de respiration profonde qu'utilisent depuis des siècles les parturientes et les adeptes du yoga. Didi leva les yeux au ciel. « J'ai accouché sans péridurale, » marmonna-t-elle. « Je me souviens des exercices de respiration. Mais un accouchement s'est plié en quelques heures, alors que ça... » « Par ailleurs, » continuai-je sur le même ton, « en vous incitant à établir un dialogue avec votre douleur, je cherche à vous faire dépasser la relation conflictuelle que vous entretenez aujourd'hui avec votre corps. Prendre conscience de ce que vous ressentez conduira à l'acceptation, qui conduira au progrès. Bref, comme vous venez d'en faire l'expérience, quand vous parlez à Melvin, vous vous sentez mieux. Quand vous l'insultez, ça vous enfonce. Mais je ne l'aime pas. Est-ce que pour autant ça vous empêche de le respecter, de lui être reconnaissant du rôle qu'il joue ? Je veux qu'il s'en aille. Pourquoi ? Parce que c'est un faible. J'ai horreur de la faiblesse. Je croisai les mains. Alors vous devez m'adorer. Je ne ressens aucune douleur, donc je ne peux avoir aucune faille. Ce n'est pas la même chose, répliqua-t-elle aussitôt. J'attendis. Le fait que vous ne ressentiez pas la douleur ne veut pas dire que vous soyez forte. Peut-être que c'est une autre forme de faiblesse. Vous n'avez rien à surmonter, aucune base pour l'empathie. J'attendis. Didi poussa un soupir d'exaspération. Oh, lâchez-moi ! Vous voulez me faire dire que Melvin est une bénédiction, que la douleur a son utilité, qu'elle forge le caractère, blablabla. Vous me faites le coup de la psychologie inversée. Vous ne reculez devant rien, vous les psys, hein ? Sûrement que je ne ressens rien, pas plus dans mon cœur que dans mon corps, ironisais-je. Mais sincèrement, est-ce que Melvin a son intérêt ? L'enquêtrice fit la moue. Il essaye de m'épargner une nouvelle blessure, ça j'ai pigé. Vous pouvez respecter ça ? D'accord. Vous pouvez l'insulter moins, peut-être même lui accorder un ou deux moments de gratitude ? Je ne sais pas, il m'offrira des fleurs ? Mieux que ça, il murmurera tout bas à votre oreille au lieu de hurler dans votre épaule. J'ai encore mal au bras. Votre humérus est encore cassé. Mais je ne me sens plus aussi... Didi s'interrompit, cherchant le mot juste. Je ne me sens plus aussi enragée, comme si j'allais devenir cinglée. Vous vous sentez davantage aux commandes. Voilà, c'est ça. En tant que praticienne du modèle ISF, je dirais que c'est parce que vous avez accepté l'existence de cette partie de vous-même qui vous dérangeait, l'exilée, et que du coup votre vrai self est de nouveau plus centré et aux commandes. Didi me jeta un coup d'œil. Disons que respirer profondément est utile et que parler à Melvin n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Prendre acte, accepter, progresser, d'accord. Si ça a marché pour une bande de super-athlètes, pourquoi pas pour moi? Je souris, dénouer mes mains. Vous avez le droit de prendre soin de vous, Didi. Entre votre travail et votre famille, j'imagine que vous avez souvent l'impression que votre attention est nécessaire ailleurs. Mais c'est bien d'accepter ses propres besoins. Vous savez, glacer cette fichue épaule au lieu d'attendre que quelqu'un vous offre des fleurs. Didi finit par rire. Alors qu'elle se levait, son téléphone portable sonna. Elle jeta un œil au numéro et me lança un bref regard. « Il faut que je réponde, vous permettez ?» Elle montrait la salle d'attente. J'acquiesçais d'un hochement de tête. Elle parlait déjà quand elle franchit la porte. Je m'occupais en déplaçant une pile de dossiers, en remuant la paperasse envahissante. Mais j'avais une oreille qui traînait à côté. Ça va de soi. Mon sens du toucher était déficient, mais celui de la curiosité marchait parfaitement. On a une touche dans le fichier VICAP, vraiment ? L'enquêtrice parlait avec animation. Plusieurs victimes, prélèvement de peau post-mortem. Dans sa penderie ? La vache ! Ça, c'est pervers. Attends un instant. Comment ça, le type n'est même plus en vie ? Je fus parcourue d'un premier frisson. Mon regard tomba sur mon bureau, où le journal du jour attendait encore que je me penche sur lui. « Double meurtre », proclamait la une. « Deux victimes écorchées dans leur lit. Du jamais vu », affirmait un enquêteur anonyme. Sauf que moi, j'avais déjà vu ça. Sur de vieilles photos de scènes de crime, des carnages perpétrés par un assassin encore plus doué, encore plus abominable. Un individu dont le besoin maladif de peau humaine avait été transmis à ses deux filles. Je m'approchai discrètement de la porte de la salle d'attente. C'était plus fort que moi. Je croisai le regard bleu acéré du commandant Warren et murmurai, un battement de cœur avant elle, le nom du seul et unique criminel susceptible de déstabiliser à ce point une policière aguerrie. Harry D.